Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Julie Deveau.
Thé, café, chocolat, sucre, sel, poivre, pommes de terre, tomates, poivrons, aubergines ou encore vin, autant de produits que chacun d'entre nous consomme au quotidien. Et pourtant, il y a encore quelques siècles, ces produits que l'on pourrait classifier aujourd'hui de banals étaient pratiquement des trésors lorsqu'ils étaient à votre table. Avec les questions écologiques actuelles, leur consommation est remise en question. Pour nous raconter cette mondialisation des aliments, j'invite au docteur en médecine et spécialiste gastro-entérologue, mais également fin gastronome et grand connaisseur de l'histoire de la gastronomie, vient de faire paraître aux éditions PUF son nouveau livre intitulé « La mondialisation à table ». Jean Vito, bonjour.
Bonjour.
On vous connaît bien évidemment à travers les chroniques gastronomiques que vous présentez sur les ondes de Canal Académie. Pourquoi vous êtes-vous intéressé à la mondialisation des aliments ?
Mais parce que la mondialisation des aliments apparaît être quelque chose finalement d'immémorial et presque d'éternel depuis le paléolithique supérieur, puisque je remonte à cette époque-là, et même encore avant, et parce que actuellement on nous présente la mondialisation comme un spectre funeste, alors que finalement une immense partie des produits que nous consommons sont le résultat de mondialisation passée.
Alors de quand date cette mondialisation ?
Les mondialisations débutent très loin. Par exemple, tous les animaux domestiques ont été domestiqués en Asie centrale, qu'il s'agisse du mouton, de la chèvre, même du cochon, de la vache et puis du cheval. Tous ces animaux ont été domestiqués environ entre 6 et 8 000 ans avant notre ère en Asie centrale et ensuite ont progressé d'abord vers la Mésopotamie, puis ensuite l'Égypte et ensuite l'ensemble du monde méditerranéen. Et ensuite le monde entier beaucoup plus tard. Également, on peut dire que les céréales sont également quelque chose qui a été mondialisé, parce que le blé vient du croissant fertile, le riz vient de Chine, et le maïs qu'on ne connaîtra qu'au XVIe siècle est la céréale de l'Amérique précolombienne. C'est d'ailleurs assez amusant de constater qu'aux trois grands foyers primordiaux de l'humanité correspondent à chacun une céréale.
Comment a évolué la mondialisation gastronomique au fil des siècles ?
La mondialisation gastronomique a commencé très tôt. On a des recueils précis des palais mésopotamiens, et notamment de celui de Marie, qui avait été fouillé par l'école du Louvre, où on a les catalogues de tout ce qui entrait au palais. Et là, on se rend compte qu'il y avait déjà des produits qui venaient de fort loin, d'Inde, comme le gingembre, ou de la montagne, c'est-à-dire du Caucase, comme le vin.
C'est à partir de l'Empire romain que l'on a commencé à consommer les prunes, les dattes et les figues fraîches ou séchées venant de Syrie et d'Égypte. De même que c'est à cette époque que l'on a découvert la truffe blanche. Et le vin était déjà beaucoup commercialisé et c'est grâce aux Gaulois qu'est apparu le fameux tonneau. L'huile d'olive, bien évidemment. Alors parlez-nous un petit peu de cette époque.
Alors Rome, c'est quand même la première mondialisation réussie parce que d'une part, tous les produits de l'Empire convergent à Rome. Et non seulement les produits séchés ou demi-secs, comme les dattes, mais des produits frais. Il faut savoir que les huîtres venaient d'Arcachon à Rome. On a retrouvé des amphores remplies d'huîtres où on ne gardait qu'une coquille et qu'on envoyait dans la saumure à Rome. Il semble même qu'on envoyait des huîtres et qu'on déposait dans des viviers au fur et à mesure pour qu'elles arrivent fraîches à Rome. Et on a retrouvé des huîtres de Bouzigues, de Méditerranée, sur le limès germanique, c'est-à-dire à Trèves. Donc tous les produits arrivaient à Rome. Les produits les plus lointains, c'est-à-dire que les épices venaient de fort loin, de Libye, de Syrie, et par exemple, les produits venaient même de beaucoup plus loin, puisque les produits de Chine sont arrivés progressivement. C'est ainsi que l'abricot qu'on appelait prune d'Arménie est un produit chinois, et que d'autres produits, comme des cerises qui ont été ramenées de Turquie par les conquérants, sont arrivés à Rome aussi. Mais d'autres produits sont arrivés d'un peu partout, et notamment de beaucoup plus loin, puisque le poivre, Pline l'Ancien disait que le poivre coûtait à Rome 100 millions de sesterces par an. Et on a retrouvé des quantités de monnaie romaine, et notamment en or, parce que les Indiens aimaient beaucoup les oreus, qui ont servi à acheter le poivre.
Alors vous dites que les Romains ne connaissaient ni le beurre ni le sucre et confectionnaient leur pâtisserie qu'à partir de fromage blanc et de miel. Pouvez-vous nous en dire un peu plus à ce sujet ?
Eh bien, c'est encore un peu la tradition des pâtisseries du Maghreb, qui sont ainsi faites de cette façon, et que le beurre n'est apparu de façon courante dans notre alimentation qu'au XVIe siècle, et qu'auparavant, il ne voyageait pas. Et que de même, le sucre n'est devenu fréquent qu'à cette époque-là. Le sucre vient de la canne à sucre qui est originaire d'Indonésie. Les premiers qui ont rencontré le sucre, c'était Alexandre le Grand, et un de ses généraux, en 320 avant notre ère, parle du roseau qui produit du miel sans l'aide des abeilles. C'est une jolie définition de la canne à sucre. De là, c'est remonté en Irak, qui avait un terrain propice, puis en Égypte, et les croisés découvrirent le sucre à Saint-Jean d'Acre en 1100 et quelques, c'est-à-dire pendant les croisades. Ils n'ont ramené d'ailleurs que trois choses des croisades, le sucre, le chat et le faisan. Alors, il faut dire que le sucre, après, s'est répandu dans les îles de la Méditerranée, puis à Madère, et n'est devenu un produit de grande consommation que quand il y aura des exploitations importantes coloniales à la Martinique et aux Antilles, et ça se produira au XVIIe siècle. Alors, le premier livre qui parle en français du sucre et des pâtisseries et des confitures, puisque c'est son titre précis, c'est celui d'un nommé Michel de Notre-Dame, natif de Provence, et qui est beaucoup plus connu pour autre chose, puisque c'est le célèbre auteur des Centuries, Nostradamus.
C'est à partir du Moyen-Âge que le fromage a commencé à se commercialiser, ainsi que les épices. Les cinq épices fondamentales étaient d'ailleurs le poivre, la muscade, le clou de girofle, la cannelle et le gingembre. Mais vous dites que la conquête des épices s'est réellement faite en même temps que la route de la soie. Pourquoi ?
Eh bien parce que la route de la soie transportait d'un côté à l'autre du monde connu, c'est-à-dire de l'Empire romain, puis après de la Méditerranée à la Chine et à l'Inde, deux sortes de produits. Les produits qui venaient de l'Est étaient essentiellement la soie et les épices. Les produits qui venaient de l'Ouest étaient, aussi bizarre que cela puisse paraître maintenant, le ver de Syrie, les armes et un certain nombre d'autres produits manufacturés. Alors, pourquoi ce goût des épices est quelque chose de très curieux, parce que les épices ont eu un goût terrible à Rome, et puis ensuite, pendant tout le Moyen-Âge, ça a été la nourriture, si j'ai dire, qui caractérisait les tables de luxe. Alors certains ont dit que ça évoquait le rouge, le chaud, et donc que dans la théorie scolastique, c'était celle du pouvoir et des hautes sphères. D'autres ont dit qu'elle venait d'un endroit lointain à l'est, proche du jardin d'Éden. Enfin, il y a eu des tas de théories. Ce qui est sûr, c'est que quand les épices deviendront bon marché, c'est-à-dire après les grandes découvertes, leur mode passera, ce qui est quand même tout à fait extraordinaire. Alors, ce qui est étonnant dans les épices, c'est que les commerçants indiens ont réussi quelque chose d'étonnant. C'est-à-dire qu'ils ont différencié le lieu de production, qui était l'Indonésie actuelle, c'est-à-dire les Célèbes essentiellement, où on produisait la muscade, la cannelle, le clou de girofle et le poivre, bien sûr. Le gingembre était produit de façon différente un peu partout en Inde. C'est une racine qui pousse facilement. Et ces produits étaient produits là, le lieu était gardé secret, et la commercialisation se faisait en Inde, sur la côte est de Malabar. Et donc à cet endroit-là, on commercialisait les marchands, qu'ils fussent romains, après nabatéens, puisque le grand centre des épices a été Petra, dont il nous reste ces tombes fabuleuses, et après l'Empire ottoman et Alep, puis avec les commerçants arabes, dont Ibn Abdubna nous a laissé une description, ils sont toujours allés à Malabar, ils n'ont jamais pu percer le secret. Et les seuls qui arriveront à percer le secret, ce sont les Européens, quand après Vasco de Gama, les Portugais, puis les Hollandais, réussiront à joindre directement les Célèbes, mais ils mettront encore beaucoup de temps pour aller pêcher, si j'ose dire, des arbres et les transporter, ce qui fut le rôle de l'intendant au nom prédestiné, Poivre, qui s'occupait de l'île Maurice et des îles Mascareignes au XVIIIe siècle.
L'aubergine est apparue bien tard dans nos assiettes. Elle n'est apparue qu'au XVIIIe siècle, alors qu'elle était connue en Asie depuis 3000 ans.
L'aubergine, au départ, n'avait pas la forme de massue violette qu'on lui connaît. C'était une petite plante qui donnait des fruits blancs. Au point d'ailleurs que les Anglais qui ont colonisé l'Inde l'avaient qualifiée au départ d'eggplant, c'est-à-dire la plante à œuf. Elle s'est développée progressivement vers l'ouest, a conquis d'une part l'Empire ottoman, puisqu'un des plats célèbres, c'est l'imam sepame, imam bayaldi. Le plat d'aubergine était tellement bon que l'imam a perdu connaissance de plaisir. Et de là, en plus, elle s'est répandue dans tout le sud de l'Union soviétique, au point même que l'aubergine fait partie des légumes traditionnels de l'Ukraine. Et après, elle s'est répandue également sur tout le pourtour méditerranéen, puisque dans tout le Maghreb, il y a des aubergines. Elle est arrivée en Italie au XVe siècle, où on l'a d'abord considérée comme la tomate comme une plante ornementale et potentiellement vénéneuse, ce qui n'était pas stupide, puisque l'aubergine est une solanacée dont beaucoup de plantes sont très vénéneuses. Et ensuite, n'a commencé à se répandre et à devenir, sous la forme qu'on la connaît puis mangeable, qu'au XVIIIe siècle. Mais il faut savoir que le plat emblématique qui utilise l'aubergine en France, qui est la ratatouille, n'est pas mentionné dans le livre de Jean-Baptiste Reboul, qui est le plus célèbre auteur de la cuisine marseillaise, paru vers 1890, et que donc que ce plat est éminemment moderne.
Vous expliquez dans votre livre que l'on aurait découvert les propriétés du café après que des chèvres aient brouté les baies d'un caféier.
Oui. Alors, il y a plusieurs théories et plusieurs légendes qui s'accompagnent de ce phénomène. Alors, on ne sait pas trop si le café est éthiopien ou yéménite, puisque Mocha, qui est la capitale où on a découvert le café, où on le produisait, est sur la côte de l'Arabie dite heureuse. Alors, ce qui est sûr, c'est que la version chrétienne dit que le supérieur d'un couvent voisin, s'étant rendu compte que les chèvres ne dormaient plus, trouvait son couvent endormi, on a servi une décoction à ses moines qui se sont réveillés. Alors, il y a une version musulmane qui dit qu'un homme injustement accusé a été ayant chassé de Médine, a survécu et resté éveillé à cause des graines de café. Et quand on l'a retrouvé, il était toujours vivant et on a jugé que c'était un miracle digne du prophète. Telles sont les deux théories sur le café. Ensuite, le café monte à Médine et puis à Constantinople. Et dans ces deux villes, il suscite la même opposition sous le prétexte suivant, qui est digne d'une définition de mots croisés de Tristan Bernard. « Vide les mosquées et remplis les cafés ». Et Soliman le Magnifique réglera la querelle en autorisant le café, mais en lui imposant un impôt.
Aujourd'hui, on valorise le commerce équitable pour aider les petits producteurs d'Amérique latine à vendre leur café. Qu'en pensez-vous ?
Alors, le commerce équitable, je l'ai connu non pas avec le café, mais avec un autre produit mondialisé, mais qui, lui, ne s'est mondialisé que fort tard, parce qu'on a été incapable de le cultiver en Europe. C'est le quinoa. Le quinoa, ce sont des grèves d'une chénopodiacée, c'est-à-dire d'une betterave, qui, comme l'amarante, fait partie de l'alimentation traditionnelle des hauts plateaux andins. Alors j'ai essayé d'en planter dans mon jardin, j'avais ramené des graines. Chez nous, ça marche décidément pas. Et donc, ça fait partie des produits mondialisés avec le commerce équitable. Et je suis tout à fait favorable au commerce équitable dans la mesure où il assure une juste rétribution aux paysans qui le produisent et en évitant le passage par les multinationales.
La découverte de l'Amérique par Christophe Colomb en 1492 a permis de découvrir plusieurs plantes, telles que les fèves, le maïs, la tomate, les courges, le poivron, le piment, la pomme de terre, la patate douce, le manioc, l'arachide, l'avocat, la goyave, la papaye, l'ananas, le cacao, la vanille, la noix de cajou, le figuier de Barbarie, mais également le topinambour et le tournesol. Pourtant, ces découvertes ont été désastreuses pour les Amérindiens, puisque les Européens ont notamment ramené la variole et la rougeole. Finalement, on pourrait faire un parallèle avec ce qui se passe aujourd'hui, avec l'agriculture intensive en Amérique latine.
Alors, ce qui est sûr, c'est que les conquistadors ont apporté la variole et la rougeole. Il y a une chose de certaine, ils ne l'ont pas fait exprès. Ce qui est sûr, c'est que la rapidité de propagation de ces maladies explique rapidement la décrépitude des royaumes précolombiens. Parce qu'au bout d'un petit moment, les redoutables guerriers aigles et jaguars des Aztèques avaient compris que le cheval, c'était jamais qu'une autre bête, et que les fusils, c'était pas si terrible que ça. Et donc, ils se sont pris à Cortés, l'ont assiégé dans une pyramide, et ils commençaient vraiment à les tuer un à un, les Espagnols. Mais la variole est arrivée à ce moment-là, et Cortés a pu sortir. Et on raconte que quand Pizarre est arrivé au Pérou, déjà la moitié de la population de l'Empire était morte de ces maladies. Alors, ce qui est sûr, ça, c'est que, alors, je ne vais pas me faire des amis en disant ça, mais c'est probablement le seul vrai génocide total de l'humanité, parce que ça a tué 90% de la population de l'époque. Le Mexique comptait 40 millions d'habitants à l'époque. C'est quand même impressionnant. Alors, que par contre, nous ayons récupéré la majorité de leur culture vivrière, c'est vrai, à l'exception d'une qui n'a pas fait florès chez nous, qui est le dahlia, dont on ne se sert que pour les fleurs, mais ils mangeaient également les tubercules. Et deuxièmement, la chose amusante sur les empires précolombiens, c'est que par contre, ils n'avaient que très peu d'espèces qu'ils mangeaient, d'animaux. Ils mangeaient le lapin, le dindon. Le dindon qu'on a ramené chez nous n'est pas le dindon des grandes plaines américaines, mais c'est le dindon du Yucatan. Et ils mangeaient au Pérou deux animaux qu'on n'a pas l'habitude de manger, mais que moi j'ai mangé là-bas, qui étaient le cobaye, qu'on élève dans les fermes, et l'alpaga, qui est le lama. Mais le lama n'a jamais été une bête de somme remarquable, car comme disent les Péruviens actuels, le lama est un animal syndiqué, il fait 10 km et porte 10 kilos sur son dos, après il s'arrête. Et plus personne ne peut le faire repartir.
Le piment aurait eu du succès partout dans le monde, sauf en Europe. Pourquoi ?
Alors le piment a eu un succès planétaire, rapide. De tous les produits ramenés du Nouveau Monde, bien plus que la pomme de terre et la tomate, le piment a réussi à conquérir le monde en à peu près 50 ans. Il est arrivé, découvert le 1er janvier 1493 par Christophe Colomb, on a la relation dans son voyage, à Cuba. Ils appelaient ça le ají et disaient qu'un poivre bien meilleur que le nôtre est beaucoup plus facile à produire. De là, les Portugais l'ont emmené en Inde à Goa vers 1505 et 50 ans après, il avait conquis toute l'Inde. Il faut savoir que tous les piments du monde, même ceux du Népal et autres, viennent d'Amérique. On a eu des études génétiques récentes. Et alors, le piment est facile à produire. C'est une plante annuelle qui n'est peu exigeante et qui se reproduit à peu près n'importe où, à condition qu'il fasse assez chaud. C'est probablement pour ça qu'en Europe, il y en a eu moins encore que je vous dirais les deux exceptions. Alors, ce qui est sûr, c'est que ça a conquis l'Afrique. La harissa, c'est du piment. Ça a conquis toute l'Inde parce que ça coûtait beaucoup moins cher que le piment. Et c'était plus facile à produire, et que chacun pouvait en produire dans son bout de jardinet. Et c'est devenu un des composants indispensables du curry de nos jours, ce qui est amusant de penser que c'est un produit totalement mondialisé. En Europe, les voies de communication, ça a été l'Espagne, où il s'en est produit un petit peu, et c'est arrivé jusque dans le Pays basque français, où ça donnait le piment d'Espelette. Mais c'est également parti à Alep et dans l'Empire ottoman, qui est une plaque tournante de la mondialisation, parce que par exemple la dinde est aussi arrivée à cet endroit-là, elle est repartie de là en Angleterre, c'est pour ça qu'on appelle la dinde turquée en Angleterre, alors qu'elle vient d'Amérique comme toutes les autres. Et de là, le piment est reparti sur l'Empire ottoman, en Europe, et c'est pour ça que les Hongrois ont fait le paprika.
Vous nous apprenez que la sauce tomate, qui serait soi-disant un classique de la cuisine italienne, serait au contraire originaire de l'Espagne.
C'est-à-dire que les premiers qui l'ont développé étaient probablement les Espagnols, et le premier livre italien qui en parle date de la fin du XVIe siècle, et a été publié à Naples. C'est-à-dire que la tomate a été un produit qui a été très lent à se domestiquer en Europe. Pendant longtemps, ça a été un produit ornemental. Olivier de Serres en parle comme d'un joli produit à mettre dans son jardin pour l'ornement. Bria Savarin dit qu'à son époque, c'est-à-dire en 1820, on ne se servait de la sauce tomate que pour colorer les sauces en rouge. Et l'apparition de la tomate de façon importante viendra avec le chemin de fer qui permettra de transporter la tomate de Méditerranée, puis avec les cultures en serre, avec tous les aléas qu'on connaît maintenant, c'est-à-dire des cultures en serre où il n'y a pas de sol, pas d'air et des tomates sans goût.
Alors parlez-nous un peu de la route du sel.
Alors les routes du sel ont été multiples. Alors le sel, il faut savoir que c'est un produit à la fois indispensable à la vie, également sacramentel, puisqu'on en parle tout le temps dans les Écritures. Le Christ dit après tout, vous êtes le sel de la terre, et que Lot, quand il regarde Sodome se consumer, ou plutôt ses filles, sont transformées en statues de sel. Et que quand on représente la scène sur de nombreux tableaux de l'époque classique, la place de Judas est marquée par une salière renversée. Les routes du sel ont été multiples parce qu'il y a eu deux sortes de sel. Le sel de mer, c'est-à-dire où l'on faisait sécher ou bouillir dans les pays comme la Normandie ou le Sussex l'eau pour en sortir le sel. Et le sel de terre, c'est-à-dire le sel gemme, qui a donné naissance à des immenses exploitations en Allemagne et également dans l'est de la France, comme à Salins, dont la dernière pérégrination sera les salines d'Arcachon. Alors, on utilisait des poêles énormes qui faisaient plusieurs dizaines de mètres carrés et on brûlait du bois en dessous et on arrivait à sortir la saumure parce qu'on injectait de l'eau chaude et on remontait la saumure et on en tirait du sel. Le problème du sel a été double, c'est-à-dire que d'une part, c'était un produit lourd à transporter Et deuxièmement, ça a avivé très rapidement l'appétit des puissants. Alors il est amusant de se rendre compte qu'il a fallu effectivement réguler le commerce du sel parce qu'il fallait que tout le monde en ait, ne serait-ce qu'à Rome, on distribuait le pain pour la glèbe, mais également du sel. Et je vous rappelle que le mot sel a donné le mot salaire, parce que ça vient du latin salarium, et salarium c'était la paye du légionnaire, et une partie de la paye du légionnaire était donnée en sel. Voyez-vous que nous arrivons à des choses profondes. Et à la fois en Chine, à la fois à Rome et après au Moyen-Âge en Europe, il a été nécessaire de créer un impôt sur le sel parce que ça permettait d'une part de réguler l'afflux du sel dans toutes les couches de la population de façon équitable et également d'assurer des ressources fiscales à l'État. Alors Rome pour le sel a été plutôt bénin, c'est-à-dire que le prix était modéré, il y avait des greniers, tout le monde pouvait en avoir, et il n'y a jamais eu de révolte du sel en Europe. Par contre en Chine, vers 200 avant notre ère, et en Europe au Moyen-Âge avec la gabelle, qui a d'ailleurs été créée par René d'Anjou, il y a eu des révoltes fiscales parce que ça a servi de ressources fiscales considérables et on imposait un certain nombre de kilos, on ne parlait pas de kilos à l'époque, mais enfin de poids de sel à acheter forfaitairement par période. On n'avait pas le droit de l'acheter ailleurs, ce qui a entraîné les faux sauniers, la police chargée de la répression du trafic des faux sauniers, qui a donné son nom de gabelou, qui est encore utilisé pour désigner familièrement les douaniers. Et la ferme générale, sous l'Ancien Régime, tirait quelques dizaines de millions de livres par an des recettes du sel. Et Necker, en 1790, a jugé que l'impôt était irréformable, et c'est pour ça qu'il a été aboli.
On nous dit aujourd'hui de consommer moins de sel et de sucre. Croyez-vous que les problèmes d'obésité seraient dus à cette mondialisation ?
Non, alors là la réponse est claire. Pour le sel, c'est un problème qui tient à l'hypertension et ça c'est plutôt un phénomène qui tient directement à la consommation excessive de sel. Mais il faut savoir que l'on consomme probablement moins de sel qu'autrefois parce qu'autrefois le sel était une des seules façons de conserver les aliments. On mangeait beaucoup d'aliments salés, fumés, salés, séchés et qui contenaient beaucoup de sel. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'autrefois, on mourait beaucoup plus tôt parce qu'il y avait des épidémies fameuses, dont la fameuse peste noire, à côté de laquelle la grippe est une plaisanterie. Et il faut bien dire que c'est l'allongement de la vie qui a joué ça. Alors, on peut parler des autres produits. Le cholestérol, il faut savoir que les populations qui fabriquaient du cholestérol lors des disettes survivaient, parce que le cholestérol est à la base de toutes les hormones, alors que celles qui n'en produisaient pas mouraient. C'est probablement pour ça que nos populations, qui ont échappé à toutes les disettes depuis 2000 ans, fabriquent du cholestérol, ce qui, dans une société d'abondance, n'est pas très bon. Donc ça, c'est plutôt génétique qu'autre chose. Quant au diabète, il semblerait que le fond de la cause du diabète soit plus que les apports alimentaires, la réduction de l'activité physique qui, elle, tient à la modification de notre mode de vie plus qu'à la mondialisation.
Alors revenons à la mondialisation de la table de la fin du XXe siècle et surtout du XXIe siècle. Nous avons tous à portée de main des bananes et des oranges tout au long de l'année, des morues de Turquie, des cerises, des fraises et des haricots verts en plein hiver, de même que l'on a à disposition des fruits exotiques pratiquement en toute saison. Qu'en pensez-vous ?
Alors tout dépend des produits. Il faut savoir que le goût, parce qu'après tout c'est ce qui intéresse le gastronome, dépend du mode de transport. Il est certain que les ananas transportés par avion comme les Victoria de la Réunion sont probablement meilleurs que ceux qui arrivent par navire réfrigéré ou qu'on cueille de façon prématurée, comme beaucoup de bananes. Les morilles de Turquie, l'exemple est caricatural. La morille de Turquie est aussi bonne que la morille de chez nous, je peux en témoigner. Mais quand elle arrive par camion, elle met 15 jours pour arriver, et à ce moment-là, elle a perdu tout son goût. Elle garde l'aspect, mais pas le goût. Alors que quand elle arrive par avion, elle coûte à peu près aussi cher que la morille autochtone, mais elle a autant de goût. Alors, il y a une solution que je conseille à nos auditeurs, c'est d'utiliser des morilles séchées qui, elles, gardent le goût et sont excellentes, notamment si vous faites une poularde au vin jaune.
Vous savez sans doute qu'avec les questions écologiques, la lutte contre le réchauffement climatique, pour qu'il y ait une meilleure répartition de la richesse entre le Nord et le Sud, de plus en plus de Français consomment bio, de saison et privilégient le commerce équitable. Ils se limitent même à une zone géographique de moins de 50 km. Pensez-vous qu'il y ait une véritable prise de conscience de la part des Français ?
Alors, je pense que ce qu'on appelle les locavores, c'est-à-dire ceux qui se limitent à un rayon de 50 à 100 km autour de leur domicile ont probablement tort, parce que quelque part, il faudrait aussi prendre en compte dans tout ça les engrais, un certain nombre d'autres situations. Et d'autre part, ils limitent leur alimentation de façon importante. D'autre part, il y a également... quand même voir pas que des côtés négatifs dans le fait que des produits viennent de loin, ces produits font également vivre une population locale. Si on supprimait toutes les plantations de bananes dans le monde entier parce qu'elles sont trop loin, il est clair que les populations locales auraient des difficultés de reconversion considérables. Donc moi je pense qu'il faut être raisonnable. C'est-à-dire que globalement, il est vrai que les produits de saison sont toujours très sympathiques. Mais que quelque part, les primeurs, les premières fraises, les premiers petits pois, les premières asperges ont aussi un côté fort agréable. Que ceci dit, il n'est pas évidemment nécessaire de manger des cerises à Noël ou des fraises à Pâques, cela c'est clair. Mais je pense que le principal challenge, en tout cas d'un point de vue gastronomique, n'est pas tant de manger les produits hors saison, mais de manger des produits qui aient du goût. Parce qu'un des drames de l'époque moderne est d'avoir des produits parfaitement beaux, splendide à l'aspect, mais dont le goût est totalement décevant.
Vous-même, faites-vous attention à la provenance de vos produits ?
Oui, je sais ce que j'achète. Et quand je fais le marché avant de faire la cuisine, j'ai tendance à choisir les produits qui me disent « achète-moi ».
Pensez-vous que les Français arriveraient à se passer de chocolat, surtout à l'approche de Noël ?
Non, ça, je pense que le chocolat est devenu, comme le café d'ailleurs, ou le thé en Angleterre, un produit indissociable de notre civilisation, et que le chocolat en plus est peut-être de tous ces produits le seul dont on puisse penser qu'il puisse dégager une dépendance et avoir des effets pharmacologiques. Alors je vous rappelle que Carl von Linné, qui aimait beaucoup le chocolat, l'avait surnommé en latin dans sa classification Theobroma, c'est-à-dire la nourriture des dieux.
Merci Jean Vito d'être venu nous présenter votre livre sur la mondialisation à table. Je rappelle qu'il se trouve aux éditions PUF. Merci pour votre écoute et à bientôt pour une nouvelle émission au fil des pages.